un sénateur avec nous sur Radio Prévert. Bonjour Thierry Kosik.
Bonjour.
Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation pour que les auditeurs entendent ce que vous avez comme souhait pour cette nouvelle année qui commence et pour laquelle on vous souhaite de bien la passer, vous, vos proches, ainsi que vos collaborateurs. La santé surtout, c'est le vœu que toute l'équipe de Radio Prévert formule pour vous.
Merci, et je me permets aussi de vous retourner le compliment, ses vœux, mais aussi à l'ensemble de vos auditeurs. C'est vrai qu'on vit on sort d'une année 2020 compliquée, une fin d'année compliquée, avec des perspectives qui malheureusement semblent assez ternes. Et je crois qu'on peut, quand ce début d'année, souhaiter au moins la santé à tout le monde, parce que ce virus, je crois que c'est aussi une période, c'est quelque chose de compliqué, mais on a de belles perspectives pour cette année 2021, et vraiment je souhaite que chacun puisse complètement s'épanouir dans les projets qu'il porte.
On va évoquer les perspectives dans quelques minutes, mais avant, si vous permettez, on va revenir sur cette année 2020 qui porte les stigmates de cette crise sanitaire qui a démarré. On était au mois de mars précisément, et depuis mars, on vit sous les soubresauts avec le nombre de victimes, le nombre de personnes contaminées. Maintenant, on parle de vaccins. Alors, 2020, quel regard portez-vous sur cette année particulière ?
Une année particulière, et j'étais le premier lors du premier confinement. Alors, j'étais encore maire d'Arnage à l'époque en se disant, j'avais un regard assez. Je regardais beaucoup en arrière en me disant, mais comment on en est arrivé là et qui aurait imaginé. Lors des fêtes, je pensais notamment aux fêtes de Noël, qui en général sont plutôt des fêtes de famille, que 3 mois après, on serait dans cette situation de confinement complet, chose complètement inédite. Je crois que ce qui est plutôt intéressant, et c'est que ça a permis aussi de renforcer, on apprend à vivre avec ce virus, même si je sens qu'aujourd'hui le climat est anxiogène au fur et à mesure que les mois passent. À jongler entre ces périodes de confinement, de déconfinement, des périodes un peu plus heureuses. J'ai trouvé que l'été aussi avait permis aussi, même si c'était compliqué, à chacun aussi de pouvoir partir en vacances. Et c'est vrai que ça a été aussi un moment de décompression. Et on voit qu'aujourd'hui, six mois plus tard, la situation est extrêmement tendue.
Et là, qu'est-ce que vous dites qu'on aurait pu mieux faire s'il y avait d'autres décisions à prendre pour corriger la trajectoire? Est-ce qu'il y avait d'autres alternatives?
Il y a l'adage qui dit que gouverner c'est prévoir, mais je crois que la situation est tellement complexe, inédite, que je ne fais pas partie de ceux qui tapent constamment sur les décisions de l'État. Je crois que la situation est très compliquée. Et on la découvre. Alors après, je pense qu'on aurait pu quand même anticiper un certain nombre de choses. C'est vrai qu'on vit quand même. On a eu la crise des masques. Il fallait pas de masques. Finalement, il en faut. Je crois qu'il y a un moment aussi, et c'est aussi la crédibilité politique. On doit la vérité à nos concitoyens. Moi, c'est le choix que j'ai fait en m'engageant en politique. C'est aussi d'avoir un discours de transparence, un discours vrai. Et je crois que nos concitoyens sont prêts aussi à l'entendre. Et sur l'histoire de la vaccination, je voit les débats actuels sur le manque de vaccins, parce que ce qui est derrière, c'est pas une organisation de l'État, c'est surtout un manque de vaccins. Et je crois qu'à un moment, il faudrait aussi que le politique ait la capacité à dire à ses concitoyens que on a une difficulté, les vaccins ne sont pas là, et que la vaccination va se faire, mais elle va prendre du temps, plutôt que de toujours se annoncer. On annonce des ouvertures de centres. Ce matin, sur une grande chaîne de télé, j'entendais, en gros, aujourd'hui, il y a 1 500 000 doses, à peu de choses près, 800 centres de vaccination en France, ça fait 3 000 doses par centre de vaccination en moyenne. On voit bien que la difficulté, elle est là. Ce n'est pas suffisant. Alors, je pense que ça va venir, mais je crois qu'à un moment, il faut aussi avoir ce discours de vérité plutôt que d'essayer de mentir et de ne pas avancer. Donc voilà, c'est plutôt ce que je revendique, même si je considère que la situation est extrêmement compliquée et que c'est pas simple.
Une situation compliquée, et dans cette situation compliquée, il y a quand même eu une élection qui vaut aujourd'hui d'être sénateur. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette séquence-là, étant entendu que sur Radio Prévert?
Si je peux me permettre, il y a même eu deux séquences pour moi, puisque en fait, il y a eu l'élection municipale en mars, qui a la veille du confinement, donc qui a connu son épilogue fin mai, et puis une décision qui n'était pas attendue, je n'avais pas non pas anticipé, mais qui n'était pas dans ce que j'avais prévu dans l'immédiat, une opportunité pour m'engager sur les sénatoriales, ce que j'ai saisi après avoir beaucoup échangé avec des élus qui m'ont incité aussi à partir en me disant que je pouvais leur apporter en tant qu'élu local une expérience, une expertise, et donc m'ont incité à partir sur cette élection sénatoriale, ce que j'ai fait après mûre réflexion. Et aujourd'hui, une très très belle aventure. C'est vrai que si on m'avait dit il y a un peu plus de six mois, maintenant 7 mois, que je serais sénateur, j'aurais pris ça plutôt à la rigolade, si je peux me permettre l'expression. Finalement, je vous dis, une très belle aventure qui me permet de découvrir un nouveau cadre. Après les prémices et la découverte de l'entrée au Sénat, j'ai eu la chance je crois que c'est une vraie chance, d'intégrer la commission des finances, dont on dit qu'elle est la plus prestigieuse, et de vivre dans la foulée le projet de loi de finances, donc qui est une période extrêmement intense au niveau du Sénat, puisque pendant 2 mois et demi, on vit complètement dans cette assemblée. Et j'aime beaucoup à dire que le train de sénateur tel qu'on le décrit, bah, c'est plutôt un TGV, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. J'ai fait, pour ma part, le projet de loi de finances s'est joué sur 150 heures. J'ai dû faire 135 heures de présence effective dans l'hémicycle pour suivre l'intégralité des débats. Et je crois que c'est vraiment très, très intéressant, parce qu'on est au cœur du pouvoir. Ça permet aussi d'apporter sa pierre à l'édifice. Et pour moi, mon expérience d'élu de terrain, aujourd'hui, c'est vraiment ce que je souhaite, c'est aussi porter cette voix des territoires au sein de la Haute Assemblée.
Alors Thierry Cozic, puisque vous êtes au cœur du pouvoir, est-ce qu'aujourd'hui les sénateurs se disent qu'il faut impérativement qu'on ait des perspectives plus reluisantes, puisqu'on l'évoquait en première partie d'entretien, le contexte sanitaire qui fait que les perspectives sont pour le moins bouchées aux yeux de certains? Qu'est-ce que vous dites, vous?
C'est vrai que on voit quand même que les perspectives, elles sont, très honnêtement, elles passent par le vaccin. Moi, aujourd'hui, je crois beaucoup dans ce vaccin. D'ailleurs, j'incite le maximum de nos concitoyens à aller se faire vacciner. Je pense que c'est aussi la clé pour demain, pour aussi sortir de cette situation compliquée. Ça va prendre du temps, mais je crois que c'est quand même la clé. La deuxième, c'est qu'on assiste à une crise économique sans précédent qui, derrière, va aussi avoir des répercussions extrêmement fortes sur nos concitoyens, donc une crise sociale que je souhaite la moins forte possible, mais on anticipe quand même pour un certain nombre de nos concitoyens de grosses difficultés dans les mois à venir. Et je crois que ça va être la force de l'État de pouvoir accompagner, comme elle l'a très bien fait aujourd'hui. Je crois que c'est aussi une chance, le monde économique. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises dans leur ensemble sont quand même plutôt bien accompagnées, il faut reconnaître, notamment via le plan de relance, pour passer cette période difficile. Mais on le sait aussi qu'à un moment, quand cet accompagnement va arrêter, un certain nombre d'entreprises vont se retrouver en difficulté, et par voie de conséquence, des citoyens qui risquent de connaître le chômage. Donc je crois que c'est là où on aura aussi, et il faut aussi que l'État prenne toute sa place dans l'accompagnement de nos concitoyens.
Alors vous, qu'est-ce que vous avez comme doléance de la part des élus, étant entendu que vous les rencontrez, ces élus-là? Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui?
Alors la vraie difficulté, c'est qu'on est en période de confinement, qui est normalement dans des périodes de vœux, où on se déplace dans les territoires pour aussi aller à la rencontre des élus. La difficulté, c'est que ce confinement, bah, aussi a mis un terme à tous ces échanges, tant avec les concitoyens qu'avec les élus. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt des rencontres informelles qui se font par téléphone principalement ou par visio. Globalement, ce que je sens, c'est une vraie volonté aussi des élus locaux, des élus terrain, d'accompagner leurs concitoyens dans le dans cette période compliquée. Notamment, il y a un certain nombre de maires qui se mobilisent aussi pour mettre en place des centres de vaccination, mais qui demandent aussi un vrai soutien de l'État dans la mise en place cette organisation. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est quand même là où il y a une vraie défaillance.
Alors, monsieur le sénateur, il y a aussi un sujet qui est très important pour nous qui sommes situés dans un collège à Pont-Vallin et dans un centre pour jeunes à La Flèche. C'est le sujet de la jeunesse dans ce contexte de crise sanitaire, la jeunesse pour laquelle plusieurs signaux d'alerte sont émis.
C'est vrai que c'est une situation compliquée. Je ne sais pas si, enfin, je pense qu'un certain nombre de concitoyens ont aussi se remémorent leur jeunesse en se disant voilà, à tel moment on faisait ça, on avait la possibilité de sortir, d'aller rencontrer les amis. Aujourd'hui, j'ai une vraie pensée pour tous ces jeunes qui se retrouvent dans des situations d'isolement. Je suis aussi très inquiet sur la suite parce qu'on voit qu'il va y avoir des situations de dépression qui vont être fortes chez ces jeunes. Alors après, je crois qu'il faut aussi, avoir une forme de résilience, même si je sais qu'elle est compliquée à atteindre. Je me dis qu'on en voit le bout, le vaccin arrive et que dans quelques mois, bah, peut-être qu'on pourra aussi retrouver cette qualité de vie, même si plus rien ne sera comme avant dans les mois qui viennent. Et je vois là, j'ai aussi des jeunes enfants qui sont bientôt ados, donc cette situation, je la vis au quotidien. C'est extrêmement compliqué parce qu'on leur interdit de faire c'est compliqué de faire du sport, là encore avec les décisions qui viennent d'être prises jusqu'à partir de samedi. Le sport s'est terminé pour eux, et donc on voit que les moments de sortie, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vaquer à leurs occupations, ils sont de plus en plus restreints, et une forme d'obligation aussi de se retrouver seul. Et je crois que ça, c'est vraiment la solitude et un milieu extrêmement compliqué. J'ai eu en tant que sénateur aussi la possibilité d'aller accompagner les associations qui accompagnent les personnes en très grande difficulté, que ce soit les Restos du Cœur, mais je suis allé aussi voir les étudiants, et là on a des situations très très compliqué, notamment d'étudiants qui aujourd'hui n'ont plus la capacité de se nourrir faute de financement. C'est vrai qu'il n'y a plus de petit travail qui permettait d'accompagner aussi le financement de leurs études, et des situations vraiment, vraiment, vraiment difficiles. Donc c'est aussi la force de l'association. Et on sent que la force, elle est dans le tissu associatif. Le bénévolat a toute sa place dans ce moment compliqué. Et je voudrais vraiment aussi féliciter et soutenir tous ces bénévoles qui se mobilisent aussi pour accompagner notre jeunesse.
Et puis on peut également souligner, Thierry Cozic, qu'au Sénat, vos collègues élus de gauche veulent qu'il y ait une proposition de loi visant à accorder des droits nouveaux dès qu'on a 18 ans. Le texte sera débattu mercredi.
Mercredi, donc c'est la proposition de loi portée par mon collègue Rémi Cardon, qui est le plus jeune sénateur de la 5e République, hein, 26 ans, qui est une proposition de loi sur la jeunesse, qui est l'initiative du groupe socialiste, qui vise à apporter de nouveaux droits, et notamment de pouvoir expérimenter ce qu'on a appelé le RSA jeune pour les 18-25 ans. C'est aussi voir comment on peut accompagner. Aujourd'hui, la difficulté sur le RSA, c'est qu'on peut l'obtenir à partir de 25 ans. Et c'est vrai que pour des jeunes qui n'ont plus d'environnement, de soutien familial, qui se retrouvent isolés, la situation pour les 18-25 ans est extrêmement compliquée. Donc ce projet de loi vise aussi à accompagner la jeunesse. Et je crois qu'il y a, voilà, derrière, on a aussi de grandes espérances sur ce que doit être demain notre jeunesse. Comment la soutenir ?
Eh bien, on aura l'occasion de revenir sur ces sujets, puis sur d'autres également avec vous. Mais ce qu'on retient, Thierry Cozic, sénateur de la Sarthe, c'est que vous souhaitez à tous les habitants du territoire bien de meilleurs jours, de meilleures semaines, de meilleurs mois dans le cadre de cette année 2021.
C'est bien ça. Voilà. Et puis je renouvelle également mes voeux au début d'année.
Exactement. Merci infiniment d'avoir répondu à Radio Prévert. Et on vous souhaite une très belle année encore une fois. Et à très bientôt sur nos antennes.
À bientôt. Merci. Au revoir.
Au revoir.